Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Bonjour, bonsoir à tous.
Et ben c'est tout. Et d'ailleurs, ATH, bon bah écoute, on va faire ça à la bonne franquette. Hein. Ce soir, on s'est dit que finalement, vu qu'on est que deux, une bonne petite heure pour parler de Red Dead, ce serait pas trop, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
À noter qu'on va faire une première partie sans spoil, donc un test bio, puis une deuxième partie avec spoiler pour ceux qui ont terminé le jeu et qui aimeraient avoir matière à débattre un peu plus avec nous sur le jeu.
Éventuellement dans les commentaires plus tard, etc. Voilà. Si vous voulez. Et puis même, d'une manière générale, on a envie de spoiler un peu, parce que il y a des détails, si vous voulez, dont on aimerait bien discuter, et c'est pas trop possible d'en discuter sans déballer tout le scénar du jeu.
C'est ça, et puis, de toute façon, il y aura la première partie qui sera la critique, donc il y aura l'avis, entre guillemets, de ce qu'on a ressenti sur le jeu. Puis après, il y a ceux qui ont terminé le jeu ou bien qui ne comptent pas y jouer et s'en foutent de connaître la fin. Et vous pouvez écouter voilà le podcast avec cette partie-là, mais elle sera bien délimitée. Donc, vous inquiétez pas, dans la première partie, on fera très attention à ne spoiler aucun élément de l'intrigue et du scénario.
Voilà. Bon, alors ATH, Red Dead 2, c'est un jeu qui était très attendu.
Alors, oui.
C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, c'est un jeu Rockstar quand même. Et j'avais envie de commencer par ça. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, est-ce que il était à la hauteur des attentes et surtout du premier qui, pour pas mal de monde, est un monument ?
Alors là, c'est une question très compliquée que tu me poses d'entrée de jeu déjà. Alors, en ce qui me concerne, Red Dead 2, bah je le vois comme une extension du 1, même s'il se passe avant, mais je le vois dans une extension du gameplay du premier Red Dead. Et du coup, bah en fait, on retrouve un petit peu les mêmes points forts qui avaient fait le succès du premier Red Dead Redemption, mais aussi les défauts qui étaient apparus dans le jeu-là. Et les défauts, je vais commencer par cela, peut-être si tu veux qu'on embraye là-dessus.
Oui, parce qu'à mon avis, on va assez en dire de bien comme ça. Mais il y a quand même des défauts qui sont, je trouve, assez chauds pour un jeu de notre époque.
C'est ça.
Alors, par lequel tu veux commencer ? Parce que moi, j'en ai un, là, qui me vient tout de suite en tête.
Bah, vas-y, commence.
Franchement, les gens, ce jeu-là où il y a 36 milliards de touches pour faire n'importe quoi, j'en peux plus. C'est-à-dire que Red Dead 2, je crois que c'est un des rares jeux dont je peux dire, après y avoir passé facile plus de 70 heures, que je suis sûr encore que je le relance maintenant, tu vois. Il y a des moments où je vais me tromper de touche, parce que c'est bien de vouloir utiliser toutes les touches de la manette, mais ce qui est moins bien, par contre, c'est de faire inutilement compliqué et de rajouter tout un tas d'actions inutiles sur plusieurs touches, alors qu'on pourrait tout binder sur une seule touche. Typiquement, avec ATH, on a souvent évoqué cet exemple quand on discutait ensemble. Le fait d'ouvrir un tiroir avec une touche et de prendre un objet dans ce tiroir avec une autre touche, mais ça n'a aucun sens.
Et en plus de ça, après, t'as aussi la touche mais pour fouiller les ennemis, qui n'est pas la même, en fait. Et aussi, même pour cibler un objet spécifique. Par exemple, il y a trois objets qui sont posés sur une table, et qu'on va dire que t'as looté tous les autres au maximum, et toi, tu veux absolument celui qui est au milieu, mais des fois, c'est une galère. Et ça, c'est un problème qui est lié à l'inertie du personnage, mais aussi avec tous les détails qu'il y a dans le jeu, parce que le jeu est vachement détaillé, il y a plein de choses dans les décors, mais si tu veux choisir un truc vraiment spécifique, j'ai trouvé que des fois, c'était un peu compliqué, et donc je contrôlais Arthur Mongol. enfin, je voulais dire Arthur Morgan qui se comportait un peu comme un mongol pour ramasser l'objet et du coup ça donnait des scènes assez drôles quoi.
Et en plus, je trouve que pour le coup ça lui a été souvent reproché, c'est un défaut qu'on a eu partout. Effectivement, le jeu est assez lourd, enfin on contrôle un personnage qui a une grosse inertie, tu vois, enfin c'est un jeu vraiment qui est pas du tout arcade entre guillemets dans ses contrôles.
Ouais.
Et cette lourdeur, elle est renforcée par ça. C'est-à-dire que non seulement le personnage, il est un peu balourd, mais en plus, dès l'instant où tu dois faire 36 000 manipulations pour aller prendre ton arme, viser, tirer, ouvrir les tiroirs, machin, bidule, enfin, ça rajoute vraiment de la lourdeur au personnage et ça le rend vraiment, par moments, pénible à contrôler, quoi, en fait.
Oui, et puis même, tu as parlé de toutes les animations. Alors, c'est vachement cool la première fois quand tu les vois. Mais sur le long terme, c'est un petit peu long. Et moi, je pense que le bon compromis, ça aurait été de faire, par exemple, la première fois que tu fais une animation, par exemple, pour dépecer un animal, il te montre l'animation, mais que l'animation n'apparaisse pas systématiquement. C'est-à-dire qu'on garde les animations, on les met à certains moments, de manière aléatoire pour pas que, trop que ça vienne alourdir le gameplay du jeu qui est déjà assez lent, comme on l'a dit, avec le personnage qui est quand même une masse corporelle, qui voilà, c'est un rock quand même, Arthur Morgan.
Et toujours dans le registre de la lenteur du jeu, moi, il y a un autre truc qui a fini par m'emmerder au bout d'un moment. C'est le fait que le jeu use et abuse des allers-retours.
Mmh.
Alors, qu'on soit clair, j'y reviendrai plus tard. Je trouve très bien qu'ils aient limité les possibilités de voyage rapide. Je trouve que ça renforce l'immersion dans le jeu, etc. Par contre, je trouve que dans la dernière partie du jeu, ils ont tendance à te faire faire des allers-retours d'un bout à l'autre de la map, en sachant très bien que ça va te prendre trois plombes. Tout ça pour te faire perdre du temps, en fait. J'aime beaucoup me balader hein, dans ce jeu, mais il y a vraiment ce côté à chaque fois où je me dis attends, on est en train de me prendre pour un con, là, en fait. C'est-à-dire que, attends, pourquoi tu me fais aller là-bas? Et ça se combine, si tu veux, avec le fait que, sur la fin, j'avais vraiment l'impression qu'il y a des pans d'histoire qui étaient dispensables et que je me disais, bon, je suis déjà pas fan de ce qui se passe en termes d'histoire, en plus on me rajoute des allers-retours pour rien, enfin, j'avais l'impression, tu sais, qu'on essayait de gagner du temps, quoi, quitte à des fois casser le rythme de l'aventure, en fait. Et c'est là aussi où je veux en venir, c'est que Red Dead 2, pour le coup, en termes de rythme, c'est un jeu qui me divise, parce que d'un côté, il y a tout le début du jeu que j'ai trouvé absolument emballant, tu vois. Et puis, vient un moment dans la narration où je commence à me dire, mais ça commence pas à être un peu long, là, en fait. Et je sais pas si t'as ressenti ça, toi aussi, ATH.
Oui, bah, j'ai ressenti le fameux ventre mou du jeu. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, vraiment, en jouant manette en main, bah, il y a des moments où je me suis vraiment fait chier, quoi. Quand tu te demandes quand est-ce qu'on passe à la suite, là,
c'est qu'il y a un problème.
Voilà, c'est qu'il y a un problème. Et du coup, ouais, il y avait ce fameux moment de flottement. Puis après, une fois que l'aventure repart, on est content. Mais pour rester sur ce rythme un peu bâtard et vraiment sur l'aspect narration que Rockstar a voulu imposer, moi, il y a un truc qui m'a vraiment fait chier dans ce jeu-là. Je l'ai d'autant plus vu que dans les précédents Red Dead ou dans les GTA. C'est que le jeu, j'ai l'impression d'avoir joué avec Sam Hauser et Dan Hauser derrière moi pendant l'émission, qui me disait, non, tu veux monter sur la passerelle là-bas pour avec ton sniper? Non, nous on a prévu que t'allais jouer comme ça, donc toi t'es notre acteur, et moteur, ça tourne et t'as pas le droit de quitter le champ. Et ça, je trouve que c'est dommage pour un jeu qui est justement open world. Les scripts, en fait, ils sont tellement forts qu'ils te laissent pas l'occasion d'utiliser ton intelligence ou bien...
C'est-à-dire que, pour préciser à ceux qui n'ont pas joué au jeu, il y a des moments ou si tu ne fais pas exactement ce qu'on t'a dit, on te marque mission échouée.
Voilà.
C'est le réalisateur qui te dit eh oh pop là, qu'est-ce que tu fais connard là? Je t'ai dit de faire ça, tu fais ça maintenant.
C'est
hein?
Ça.
Allez, action. On reprend.
Et c'est d'autant plus bizarre que juste avant bah j'avais joué à Assassin's Creed Odyssey, et dans Assassin's Creed Odyssey, bah au moins ils te font pas chier avec ça, c'est-à-dire qu'ils te disent ouais, il y a un mec à tuer dans ce fort là. Et là, après, c'est toi qui choisis ton gameplay, ce que tu vas faire,
tout à fait,
ton approche, et ça, c'était un truc cool. Et bah là, Rockstar, ils veulent vraiment raconter leur histoire, parce que pendant l'émission, bah ça jacasse pas mal.
Et ça jacasse, il y a la mise en scène, en fait, c'est ça, tu vois.
C'est ça.
Ils tiennent absolument à leur mise en scène, et du coup, ils sacrifient tout le reste sur l'autel de cette mise en scène. Alors, certains diront que c'est un choix couillu. Moi, je trouve que c'est plutôt un choix de fainéantise, en fait. Je dis que sincèrement, comme je pense, c'est-à-dire que comme ils savaient pas comment intégrer leur narration dans un gameplay un peu plus ouvert, on va dire, ben, ils ont choisi de casser le gameplay au profit de la narration, quoi, tout simplement.
Mais en plus de ça, ça ne laisse pas la possibilité d'avoir un gameplay émergent pendant, justement, ces fameuses missions.
Mais en plus, je trouve que ça rentre en contradiction avec le reste du jeu, quoi.
C'est ça.
C'est un jeu qui t'incite fortement à explorer, à te balader, à faire des activités annexes, etc. Qui a un certain génie, j'y reviendrai plus tard, pour te glisser des moments d'histoire à des moments où tu t'y attends pas, en fait. Et je ne comprends pas qu'ils aient réussi à faire ça sur des missions secondaires, mais que par contre, sur la quête principale, ils se soient dit, ah non, absolument, non, nous on a décidé que la scène allait être comme ça. On s'en fout du reste, quoi.
Voilà. Et y a aussi d'autres choses qui viennent un peu péter le délire. C'est par exemple quand tu veux tenter une approche, on va dire, entre guillemets, infiltration. Spoiler, mais l'infiltration dans le jeu ne marche pas. Elle est totalement à la ramasse.
Bah déjà les ennemis sont aveugles, hein, disons-le.
Les ennemis sont aveugles, mais des fois ils te repèrent alors que t'arrivais discrètement. Des fois tu viens de manière ultra bourrin, ils te repèrent pas. Enfin l'IA, elle est illisible dans ce jeu-là, je ne la comprends pas. Et c'est encore pire quand t'es en phase de shoot. Là c'est vraiment le défaut du premier Red Dead qui revient dans celui-là. C'est-à-dire c'est le gameplay qui n'a pas évolué, ou presque, il a un petit peu bougé. Mais c'est les mêmes phases, c'est-à-dire on reste accroupi derrière un muret ou derrière n'importe quoi qui nous protège.
Voilà, tu fais ton caca derrière le muret tranquillement.
C'est ça. Et là, c'est la force du trône, c'est-à-dire les ennemis. Des fois, tu vois, ils se cachent derrière un muret, mais ils laissent toujours transparaître leur tête pour que tu leur mettes bien le petit headshot qui fait plaisir. Et j'ai vu même des fois des ennemis qui restaient comme ça debout mais cachés devant rien. Et voilà, c'est un petit peu dommage.
Et ce d'autant plus que les phases de tir sont lourdeaux, quoi. Franchement, c'est pas le gameplay le plus péchu excitant qu'il y ait. Alors, à la limite, tu vois, ça m'aurait pas dérangé si on avait eu une vraie IA en face.
Oui.
C'est-à-dire que le côté, à la limite, réaliste, il m'aurait pas dérangé, par exemple, si on avait eu des ennemis un peu pas trop cons, tu vois, qui essayent de te contourner, de te prendre à revers, etc. Mais là, c'est comme tu le dis, c'est la foire du trône, quoi. C'est surtout qu'en plus, t'as toujours le système de ralentissement du temps qui est complètement craqué, qui fait que le peu de phases où t'aurais un temps soit peu challenge, tu y passes finger in the nose sans trop faire d'effort, quoi.
Alors voilà. Le système de Dead Eye, c'est donc c'est un système qui permet de ralentir le temps pour cibler tes ennemis et tirer vraiment dans des endroits précis. On va dire c'est un peu le bullet time de Max Payne. Bah moi j'ai essayé de pas trop l'utiliser parce que je trouvais que ça gâchait un petit peu le jeu. Des fois ça m'arrivait de perdre, hein, mais c'est vraiment quand je faisais le con ou bien quand je faisais pas attention à ce que je faisais. Mais c'est très très rare que tu perdes dans ce jeu-là, on va dire, quand tu joues concentré et vraiment que t'es dans un truc. Et c'est d'autant plus dommage parce que Rockstar a quand même fait Max Payne 3. Et Max Payne 3, c'est un TPS qui est très jouable à la manette, voire un des meilleurs. Et en plus de ça, qu'il y avait une IA qui était pas mal. Parce qu'on dit souvent que Red Dead 2, c'est un peu une synthèse des productions Rockstar, mais je pense que dans le lot, ils ont oublié Max Payne 3.
Bah, c'est d'autant plus con que... Tu disais que c'était déjà un des défauts du premier, et t'as raison. Ce que moi, je voudrais souligner une chose, c'est que il y a quand même quelques années qui sont déroulées entre Red Dead 1 et Red Dead 2. Mm-hmm. Déjà, à l'époque, le premier, comparé à un Gears of War dont il s'inspirait, c'était pas forcément hyper brillant, tu vois.
Bien sûr.
Mais ça l'est encore moins aujourd'hui. C'est-à-dire que le gameplay des jeux Rockstar, moi je suis désolé, il vieillit de plus en plus mal. Et moi c'est vraiment, si je devais distribuer des mauvais points, tu vois, s'il y en avait un que je devais distribuer, c'est celui-là, quoi. C'est bien Rockstar de vous concentrer sur les détails qu'il y a dans le monde, de bosser sur plein de trucs, etc. Mais des fois j'ai l'impression qu'en fait, tout ce qui concerne le gameplay, vous avez un peu la flemme, quoi. C'est-à-dire que vous utilisez systématiquement la même formule d'un jeu à l'autre, et là, ça commence vraiment à bien faire. Faudrait peut-être envisager de se sortir les doigts du cul, parce que là, c'est chaud, quoi. Avoir un système de couverture comme ça en 2018...
Bah en fait, c'est le système de couverture qui avait été inauguré avec GTA 4 à l'époque. Bon, qui était une petite révolution par rapport à San Andreas, parce que San Andreas, c'était vraiment un système tout pété. Donc, quand c'est arrivé avec GTA 4, c'était bienvenu. On était en plus ça en pleine époque Gear of War qui avait mis la barre assez haute. Et là, comme tu l'as dit, depuis ce gameplay-là, il a été décliné. C'est-à-dire, on a eu GTA 4, Red Dead Redemption, GTA 5 qui utilise le même gameplay encore, et Red Dead Redemption 2. Donc, ça serait bien qu'il change un petit peu cette manière d'approcher les phases de tir et de trouver quelque chose d'un peu plus intéressant. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment dommage parce que Max Payne 3, l'IA était vraiment intelligente à te contourner, à te mettre vraiment à revers. En plus ça, par exemple, si tu affrontais des forces d'élite, et ben, elles étaient beaucoup plus entraînées, donc elles étaient un peu plus réactives pour t'abattre, alors que tu as affronté des mecs de gang, c'était, on va dire, entre guillemets, un peu plus simple. Et ça, c'était cool. Et c'est dommage que dans Red Dead Redemption 2, un jeu qui a nécessité tellement de budget et d'attention sur le soin du détail, que la partie gameplay, c'est-à-dire donc plaisir manette en main, n'ait pas profité du même soin, quoi, que le reste.
Et c'est d'autant plus dommageable que tu parlais de soin du détail, mais pour moi, c'est un jeu qui se veut réaliste, en fait. Et moi, je suis désolé, avoir des pecnos qui sont plantés devant moi et qui attendent que de se faire tuer, mais il n'y a rien de pire pour l'immersion, quoi. Franchement,
ouais, c'est
dans
ça,
un
c'est...
jeu qui déploie des trésors d'ingéniosité pour immerger le joueur, je ne comprends pas qu'on ne se dise pas, à un moment donné, putain les mecs, c'est plus possible de faire une IA comme ça qui reste plantée comme une conne et qui attend que de se faire tuer.
Après, je sais pas si t'as d'autres défauts encore à dire ou pas, parce que moi j'en ai un qui concerne purement l'aspect technique du jeu.
Vas-y.
Bah en fait c'est juste que le jeu en général est très bien optimisé, est super beau, ce que vous voulez, mais à certains moments le jeu ralentit. Par exemple quand tu rentres dans une ville et que tu ressors, tu vois un petit peu de latence. Et aussi quand il y a des effets de flamme, là le jeu galère vraiment. Et voilà, c'est un petit peu dommage. Et j'ai aussi eu un ralentissement alors qu'il y avait rien, j'étais juste en pleine forêt la nuit avec un brouillard assez épais et là le jeu a commencé à ramer, mais vraiment, alors que je suis sur PS4 Pro en plus hein. Donc voilà, mais je tiens quand même à souligner qu'il y a eu des problèmes d'optimisation du jeu ainsi que pas mal de bugs qui étaient pas des bugs gênants, handicapants, mais il y a quelques bugs qui sont un petit peu chiants à la longue pour un jeu comme ça, et du coup je pense que c'est quand même intéressant de les souligner parce que ce n'est pas un jeu aussi parfait qu'on voudrait bien nous le faire croire.
Ouais. Bon, par contre, je tiens quand même à signaler que c'est un jeu relativement propre, hein, c'est pas un jeu Bethesda.
Non, mais tu sais bien ce que je pense des jeux Bethesda, donc me lance pas là-dessus.
Non, je vais pas te lancer sur Fallout 76, promis. Mais c'est vrai que des fois, il est pas aussi propre qu'on veut bien nous le dire. Je souscris à ce qu'a dit ATH sur tout ce qui est les effets de brouillard, le feu, etc. Sur les bugs un peu chelous, parfois très drôles, j'en ai montré un à ATH ce jour.
Oui, t'es
j'ai bien. Fait bugger un personnage en retour de mission et parce qu'en gros, pour vous expliquer, j'avais parqué mon cheval à un endroit où il est parqué le sien, en fait. Et du coup, ben, en boucle, il essayait de se garer. Et ça lui faisait faire des mouvements assez drôles en fait. Donc j'aurais pu rester là 3 heures. Je pense que l'IA elle aurait déconné pendant 3 heures quoi.
Non, mais tu vois, ça encore ça c'est on va dire c'est les bugs un petit peu marrants. Mais moi ouais. Je parle vraiment de quelques bugs par exemple qui m'ont empêché de valider une quête parce que tout simplement la touche pour interagir avec le personnage n'apparaissait pas. Du coup, j'étais obligé de quitter la partie, relancer la partie et là magie ça marchait très bien. Et ça c'est un petit peu dommage que bah t'es obligé de sortir du jeu donc l'immersion prend un petit coup. Pour revenir, pour finir une quête ou bien pour avoir un élément qui se déclenche parce que le trigger n'a pas fonctionné correctement.
Ah oui, d'ailleurs, si par contre tu m'y fais penser, un bug, moi, qui pour le coup m'a énormément sorti du jeu, il se trouve que je suis mort une fois dans une mission, je me suis rendu compte, après avoir fait cette mission-là, que des personnages qui étaient dans le campement avaient disparu. En l'occurrence, bon, je suis allé regarder sur internet, du coup, parce que ça m'a paru bizarre, je me dis, mais putain, il est passé où le gamin, elle est passée où cette nana, enfin. Visiblement, c'est un bug qui est connu. Et en fait, si tu meurs pendant la mission dont je viens de vous parler, ben, les personnages, ils disparaissent jusqu'au chapitre 4. Ce qui fait 2 chapitres pour loin, et quelques heures de jeu quand même.
Hein. Ouais.
Donc ça veut dire que j'ai manqué plein de dialogues, plein d'interactions avec ces personnages. Et là par contre, en termes d'immersion, on est d'accord que c'est pas tip-top. Hein.
Ouais, c'est pas tip-top surtout parce que le jeu fait tout pour instaurer une pression sur la bande de Dutch Wonderline. Et que si y a certains éléments qui manquent à l'appel ou bien certains dialogues, c'est un petit peu dommage parce qu'il y a vraiment une tension qui s'installe au fur et à mesure. Et je pense que c'est important de voir un petit peu comment tous les personnages réagissent aux actions que font le gang. Et du coup, ouais, si t'as loupé des personnages comme ça, voilà, quoi, c'est, y a rien de plus anti-immersif.
Et de frustrant, surtout. Enfin, c'est vraiment, tu te dis, mais, putain, les mecs, quoi. Alors, en gros, c'était, soit j'attendais qu'ils sortent un patch, alors on enregistre, je crois pas qu'ils sont encore sortis.
Non, il y a eu aucun patch depuis la sortie du jeu.
Soit, ben, je continuais, quoi. Ben, j'ai continué, hein, parce que, honnêtement, je vous avoue qu'il y a un moment où je me suis dit, allez, ce jeu, il faut que je termine. Et c'est par là que je voulais terminer pour les défauts. C'est un jeu, t'es quand même content quand tu le termines, quoi. C'est-à-dire qu'il est long. Mais il est vraiment long, quoi.
Ouais.
Il est même un peu trop long à mon goût. Alors, on a un peu effleuré le sujet avec cette histoire de rythme, mais c'est pas qu'une histoire de rythme en fait, c'est que il te gaffe tellement de contenu que au bout d'un moment tu dis allez hop on trace.
Ah c'est trop, non c'est vraiment trop.
Ouais, c'est trop. Et pourtant comparé à un Assassin's Creed Odyssey, il est épuré, tu vois. Enfin moi je le trouvais épuré comparé à un Assassin's Creed Odyssey.
Ouais, il est épuré, il est varié, mais c'est trop.
C'est encore trop, tu vois. Enfin en fait c'est trop grand, trop machin, trop. Et moi je suis désolé, sur la fin j'avais qu'une envie, c'était de le terminer, de passer à autre chose, quoi.
Alors en fait moi au début j'ai perdu énormément de temps à explorer l'open world. Il y avait plein d'activités intéressantes qui me tendaient les bras, mais à chaque fois le problème c'est que j'avais l'impression d'ouvrir, tu sais, un peu comme les poupées russes là, il y a une poupée dans une poupée dans une poupée. C'est-à-dire à chaque fois il y avait un nouveau gameplay qui apparaissait, du coup je l'effleurais, puis là je découvre autre chose, etc. Évidemment, je me dis, mais c'est quand ça va s'arrêter, en fait? Bon, allez, hop, c'est bon, j'ai picoré un peu l'open world et tout.
Allez, on passe la seconde, là.
J'ai fait sortir sur chapitre 1, on trace maintenant, là. C'est pas possible de rester comme ça. Mais c'est vrai qu'en fait, le jeu est tellement généreux. C'est paradoxal, ce que je veux dire, mais je le considère comme un défaut parce que, en fait, tu te perds tellement dans ce que tu fais, alors que des fois, par exemple, il y a des situations qui t'imposent des choses urgentes. Et toi, t'es là, tu vas faire tes trucs normal, tu vas aller chasser,
mais
tu vas
aller
pêcher.
Mais c'est ça, en fait, ATH. Pourquoi c'est un défaut? Parce que c'est un jeu qui cherche à avoir une histoire, en fait. Et c'est ça, oui. Le problème, c'est que ce serait un jeu comme Zelda où l'histoire, tu peux même la skip et aller tuer directement Ganon, tu vois. Enfin, et tu peux pas faire ça dans Red Dead. Red Dead, pour le coup, c'est tout l'opposé de ça, quoi. C'est, il y a une histoire, il faut la suivre. Et le problème, c'est que cet aspect du jeu où on t'impose un scénar, un rythme, etc., il rentre en totale contradiction avec le fait d'aller chasser des lapins.
C'est ça. Et mais même, tu vois, des fois, par exemple, tu fous le bordel dans une ville et t'es recherché partout, mais toi, t'as juste à payer ta prime et puis revenir un petit peu après. Et en fait, le jeu va considérer comme si t'étais safe, mais pourtant, dans le scénario, ils vont bien te rappeler que ce que t'as fait à ce moment-là, c'était une connerie et que du coup, vous êtes recherché, quoi.
Bah, il y a une dissonance de narrative et surtout sur la fin, mais on va pas s'attarder plus que ça ici. Mais je veux dire, il y a une tension qui monte au fur et à mesure dans le jeu. Jusque sur la fin où il y a carrément une situation d'urgence qui s'installe, quoi. Il y a des décisions qu'il faut prendre et tout. Et là, à ce moment-là, t'as Arthur Q. Morgan qui dit « Non, mais vas-y, rien à foutre, je vais chasser. C'est bon. Salut
!» c'est ça, exactement.
Et voilà, pour moi, c'est le gros problème de Red Dead, c'est que il a pas poussé sa logique jusqu'au bout, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a voulu proposer plein de contenu et proposer une histoire très dense à côté, avec un rythme très dense aussi, c'est-à-dire que vraiment sur la fin, il cherche à accélérer le rythme, etc. Sauf que toi, à tout moment, tu peux dire, bah fuck, vas-y, je fais ce que je veux, quoi. Alors on pourra me dire, oui, mais c'est toi qui décides. C'est pas tout à fait ça, quand même, parce que il y a des moments, je vous assure que vous êtes entraîné malgré vous dans des histoires qui n'ont rien à voir avec la situation présente, quoi. C'est-à-dire que tu découvres des trucs, etc., tu vas aller chercher à voir ce qui se passe, quoi, tu vois. Enfin, tu vas pas dire, non, mais vas-y, l'histoire d'abord et tout. Non, t'es un minimum curieux, tu veux voir ce qui se passe. Et le problème, c'est que ça pose un problème avec la narration qu'ils essayent de mettre en place, quoi.
Et du coup, là, je pense qu'on peut rebondir avec ce que tu dis, avec les points positifs, l'attrait de l'open world.
Bah, là, l'attrait de l'open world, comment dire. Pour moi, Red Dead 2, c'est un jeu, je sais pas ce que t'en penses, ATH, mais qui est super couillu, quoi, pour un open world. Enfin, pour un open world de AAA. Pourquoi je dis ça? Parce que je trouve que il y a des choix qui sont faits dans ce jeu qui sont des choix qu'on ne voit plus dans les jeux AAA. Par exemple, tout ce qui concerne le voyage rapide, mais moi je dis bravo Rockstar, quoi. Parce que, putain, quand je vois le nombre de tests qui reprochent au jeu d'avoir un système de voyage rapide super restrictif, je me dis, fallait oser le mettre, quoi. Mais j'applaudis d'autant plus que pour moi, ce sont pas des défauts, ce sont des choix cohérents. C'est-à-dire que pourquoi on impose aux joueurs un voyage rapide super relou? Parce que les développeurs veulent que vous exploriez leur univers et que vous découvriez ce qui est à l'intérieur. Déjà, ça, c'est le premier point. Et que si on te met un système de voyage rapide, tu vas avoir tendance à complètement zapper pas mal de choses. Ils veulent également que vous admiriez quand même l'open world qu'ils sont fait chier à construire. Voilà, parce que faut pas déconner, c'est un jeu qui est hyper contemplatif.
Oui.
Et donc si tu mets un système de voyage rapide, pour moi, ça rentre en contradiction avec ça.
Mmh.
Et dernier point, c'est un jeu qui se veut immersif par pas mal d'aspects, dont le cheval. Et je suis désolé, s'ils avaient mis un système de voyage rapide, le cheval, on n'en aurait rien à foutre.
Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Et en plus de ça, j'aimerais rajouter à ce que tu as dit, le fait que les meilleures histoires que j'ai eues dans Red Dead, pour moi, c'est pas l'histoire qui m'a été racontée par le jeu, mais c'est les histoires que je me suis créées moi-même. C'est-à-dire que je me balade à cheval, et puis au loin, je vois un feu de camp, je décide d'aller voir. Et là, ça déclenche un truc, mais sans que il y a un indicateur sur la map qui m'a dit « Ouais, là, il y a une quête à faire » ou « Il y a quelque chose ». D'ailleurs, c'était même pas des quêtes, c'était juste de la découverte en allant fouiller une maison. Je découvre une histoire qui est racontée dans cette maison parce qu'il y a la narration environnementale qui rentre en jeu dans ces cas-là. Et là, tu t'aperçois que peut-être qu'il y a eu des choses glauques qui sont passées là-dessus. enfin des histoires de Red Dead, je pourrais en raconter plein, mais qui n'ont pas été entre guillemets prévues par les développeurs. Enfin, si ça a été prévu dans un certain sens, mais
ça se fait de manière organique. C'est voilà. Pas un truc qui t'est imposé comme dans la trame principale. Et ça, je suis totalement d'accord avec toi, Terche. Ça m'a encore plus marqué que la trame principale parce que c'était mes histoires à moi, en fait. C'est pas les histoires que les développeurs ont décidé de m'imposer. Non, non, c'est moi qui me suis baladé, qui suis tombé sur un truc. Et ce truc qui m'a immergé dans l'univers, etc. Et c'est ça que je trouve extraordinaire dans ce jeu pour moi. Il arrive à te raconter plein d'histoires de plein de manières différentes, que ce soit par le son, par la manière dont est construit l'environnement, par le gameplay. Enfin, il se passe plein de trucs qui ne sont pas du tout mis en scène. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je trouvais dommage qu'il n'ait pas réussi ça dans la trame principale, parce que pour le coup, ça aurait donné quelque chose de absolument fabuleux, quoi.
Et en plus de ça, pour moi, Red Dead Redemption 2, c'est le jeu du détail. Et il y a plein de détails qui viennent comme ça rajouter à l'immersion.
C'est le Shenmue du western.
Oui, non, mais on peut comparer ça à Shenmue sur certains aspects. Par exemple, quand tu rentres dans une boutique, tu peux t'amuser à prendre un objet, regarder sous ses coutures avant de l'acheter. Dans Shenmue, il y avait un petit peu ça. Il y avait aussi la lenteur de la progression du jeu. Shenmue, c'est vraiment un jeu d'enquête, puis avec une trame qui va s'amener petit à petit à quelque chose. Et ben là, dans Red Dead, on prend un peu cette structure.
Il y a aussi la volonté du réalisme. Enfin, voilà, c'est un jeu qui cherche à t'immerger dans son univers, et il a vraiment ça en commun avec Shenmue, quoi.
C'est ça. Et c'est pour ça que Red Dead Redemption 2, pour moi, il m'a fait d'autant plus plaisir après avoir fait pas mal de triple A en monde ouvert ces derniers temps. Ben, j'avais l'impression que, tu vois, tous les triple A en monde ouvert, c'était un peu du copier-coller. Certains avaient leur petit truc à côté. Je pense à Horizon avec les combats des machines qui étaient vraiment uniques à ce jeu-là. Mais la structure même de l'open world, c'était la même, par exemple, d'un Spider-Man, God of War, Assassin's Creed. Enfin, vous voyez un peu un schéma qui se répète.
Bah ouais, t'arrives sur une carte, on te met des loop shots partout et on te dit, vas-y, voilà. Va faire les quêtes, merci, quoi.
Alors que Red Dead 2, déjà, par sa lenteur, c'est quand même quelque chose d'assez couillu. Mais en plus de ça, c'est pas un jeu qui va te popper des millions de quêtes à l'infini. Vraiment, il y a très peu de quêtes, vraiment, quand tu regardes les nombres de quêtes annexes et tout ça.
Bah, surtout quand tu compares la taille de la carte, quoi. Enfin, au final, il y a beaucoup d'endroits où il ne se passe strictement rien. Et là aussi, où j'ai trouvé qu'ils étaient très intelligents, c'est que les points où s'enclenchent les quêtes ne sont pas fixes. C'est-à-dire que, par exemple, moi, il y a des quêtes que j'ai faites qui m'ont pas mal marqué, et je me suis rendu compte que des joueurs n'avaient pas eu ces quêtes-là au même endroit que moi. C'est-à-dire, tu sais, qu'ils ont fait une espèce de génération procédurale des quêtes où, des fois, elles s'enclenchent pas toujours au même point, etc., quoi. Et ça rajoute d'autant plus à l'immersion dans l'univers, quoi.
Oui, mais ça, il me semble que déjà dans le premier Red Dead, c'était déjà le cas. Après, alors là, c'est un jeu qui date de 8 ans, donc je vais pas dire de bêtises, hein, je vais pas trop m'avancer. Et comme on disait, par rapport au rythme, qu'on était des fois happé par l'open world malgré nous, et ben c'est ces petites choses-là qui rentrent en compte. C'est-à-dire que toi, tu dis, bon là, il faut vraiment que j'avance dans le scénario, je vais faire que les quêtes, et au bout d'un moment, quand tu finis une quête, ben, il faut bien que tu rentres au camp pour te restaurer et tout ça. Mais entre ce moment-là où tu vas rentrer au camp, il peut se passer plusieurs choses qui vont arriver sur ton chemin et tu sais pas quoi. Ça peut être déjà toi, par ton œil, tu vas voir une maison qui est allumée, tu dis mais attends, une maison comme ça perdue au milieu des bois, je suis quand même un voyou, donc je vais aller faire un peu de thunes. Tu vas voir ce qui se passe et là tu découvres quelque chose peut-être. Ou bien soit tu peux te faire alpaguer par un PNJ qui est perdu au milieu d'une forêt, qui va te dire ouais, aidez-moi, et là tu te rends compte qu'en fait c'est un mec qui est venu pour te braquer. Tu vois, il y a plein de mini histoires comme ça qui rentrent, mais comme tu l'as dit, ça t'aspire littéralement, et t'as vraiment l'impression de jouer Arthur Morgan, d'incarner ce personnage-là, et qu'il y a des choses qui rendent le jeu fascinant. En fait, pour moi, il y a toujours quelque chose qui va t'attirer, mais sans que t'aies forcé de le faire. Et ça, c'est un truc que je trouve encore beaucoup plus couilleux aujourd'hui que par rapport à ce qui se fait dans l'industrie, quoi. L'industrie, c'est tellement standardisé, donc on peut plus vraiment dire que les jeux sont mauvais, mais c'est du standard.
Et c'est quelque chose qui, moi, m'a fait d'autant plus plaisir que c'était très présent dans les premiers open world, en fait. Morrowind, pour moi, c'est un jeu comme ça, tu vois. Sauf que c'est quelque chose qui a disparu avec l'industrialisation des open world, quoi. C'est-à-dire que, à un moment donné, on a décidé que les joueurs, il fallait les prendre par la main, il fallait leur imposer des trucs, il fallait leur montrer, vas-y, il y a plein de trucs à faire, vas-y, va, fais mon contenu, vas-y, fais-le. Et là, c'est le jeu qui te laisse libre de faire ce que tu veux, quoi, en fait. Et ça, c'est tellement...
Ah, t'as pas l'impression de valider une checklist, en fait.
Voilà, c'est ça. Et Bon, sauf si tu te mets dans le délire que j'ai vu certains joueurs qui ont décidé de faire le 100% de Red Dead. Mon Dieu, il est fou. Là, pour le coup, à mon avis, là, par contre, je pense que t'as l'impression de faire une checklist, mais pour le coup, la checklist, il faut aller la chercher. Hein. Et c'est ça, à mon avis, je vous en parlais il y a quelque temps, où je vous disais que je ne comprenais pas, parce que Red Dead avait quand même énormément de points communs avec GTA V, par exemple.
Oui.
Sauf que GTA V, c'était un jeu qui m'était tombé des mains. Et finalement, en cherchant, bah, j'ai compris, c'est exactement ce dont on vient parler là. C'est-à-dire que GTA V, c'est un jeu qui se déroule dans un univers moderne, où dès qu'une quête te tombe sur la gueule, c'est parce que on t'a appelé par téléphone, et où finalement, j'avais sans cesse cette impression d'être dans un couloir, si tu veux. Alors que GTA, si tu veux, c'est quand même un open world où tu peux faire le con, etc., ce genre de choses. Mmh. Sauf que moi, je cherche à m'immerger dans un univers, quoi, si tu veux, quand je suis dans un open world.
Ouais.
Et le délire de GTA V où je fais le con, c'est pas dans mes réflexes naturels de joueur. Et du coup, je passe mon temps à enchaîner les missions, et finalement, j'ai l'impression de pas vraiment être dans un open world parce que je fais le jeu en ligne droite, quoi, si tu veux. Alors que ça ne se produit absolument pas dans un jeu comme Red Dead. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un putain de truc imprévu qui m'arrive et où je me dis, putain, ça a l'air cool, ça. Et si j'allais voir? Et j'ai toujours cette sensation de surprise, tu vois, qui fait que, ben, je reste immergé dans le jeu, quoi.
Alors pour moi, pour prendre la comparaison entre GTA V et Red Dead Redemption 2, GTA V, pour moi, c'est un jeu plus fun que Red Dead Redemption 2, qui se veut plus serious business, même dans son traitement des personnages. C'est-à-dire, dans GTA V, on a souvent des personnages, que ce soit des personnages principaux ou secondaires, qui sont assez hauts en couleur. Alors que dans Red Dead, il y en a, mais c'est fait d'une manière différente, et tu les sens un peu plus dans le sérieux. Après, tu vois, moi, je trouve que GTA V, c'est un très grand jeu. Il y a l'aspect monde moderne avec tout ce que ça apporte, avec les véhicules et tout ça. Donc tu vois, je prends du plaisir à aller faire des cascades, à faire des trucs sans vraiment faire le con dans la ville, parce que ça, je les faisais dans les premiers GTA quand j'ai joué la première fois. Et maintenant, ça m'amuse plus d'écraser les gens et tout. L'open world de GTA V, il fait travailler l'imagination, parce que tu peux faire des trucs complètement cons. Tu prends un avion, tu sautes en parachute, t'atterris dans la mer. Enfin, tu vois, il y a moyen de s'amuser rien qu'avec le bac à sable qu'il offre. Et je trouve que les deux jeux, c'est une philosophie totalement différente, bien qu'ils ont la même structure. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant.
Je vais te résumer ça. Pour moi, GTA V, c'est un jeu arcade, alors que Red Dead 2, c'est une simulation. Red Dead 2, c'est vie ma vie de cowboy, et GTA V, c'est voilà le bac à jouer, à fun.
C'est ça. Et puis, il y a aussi le fait que je trouve que l'histoire de Red Dead Redemption, par rapport à celle de GTA V, quand même, est beaucoup plus serious business, vraiment. Et alors que GTA V, c'est vraiment on n'aime pas les Américains, regardez-moi ces connards, ils bouffent du McDo toute la journée. Enfin, c'est vraiment une critique de l'Amérique assez dure, mais Red Dead Redemption, c'est quelque chose vraiment d'assez différent.
Alors, justement, tu parles de l'histoire, on va attaquer le morceau là maintenant, parce que pour moi, c'est vraiment le gros morceau de Red Dead. Red Dead 2, très clairement, c'est un jeu qui cherche à vous raconter une histoire, comme Red Dead 1, qui vous racontait l'histoire de John Marston. Et justement, je vous rassure, on n'est toujours pas dans la partie spoiler, hein, mais on va quand même partir du principe que vous connaissez un minimum le pitch de base de Red Dead 1. À savoir que Red Dead 1, c'est quoi? C'est l'histoire de John Marston, qui est contraint par des agents du gouvernement d'aller chasser ses anciens petits copains de la bande de Dutch. Et il le fait d'autant plus que, visiblement, il a de bonnes raisons personnelles de le faire. Voilà.
Oui.
Donc forcément, on se dit, vu que Red Dead 2 est une préquelle au 1, putain, à un moment donné, ça va partir en couille, mais c'est sûr, quoi. Parce que, je veux dire, ce gars-là, il pourchasse ses potes quand même dans Red Dead 1. Donc, s'il pourchasse, c'est que doit y avoir quelque chose qui s'est mal passé. Ça, c'est le premier point. Ensuite, attention, on ne joue pas John Marston, on joue un autre personnage. Et là, je pense que ATH, il faut qu'on parle de ce personnage que je trouve absolument fabuleux. Enfin, moi, j'avais un peu peur, parce que après John Marston, c'est quand même difficile de passer, quoi. Au départ, quand j'ai commencé le jeu, je me suis dit, putain, mais c'est quoi ce gros balourd, etc., là, qu'on nous fait jouer? Je veux jouer John Marston, quoi. Et finalement, ATH, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, Arthur Morgan, bah, je trouve qu'en fait, c'était le personnage idéal pour ce jeu, quoi.
Oui. Alors, Arthur Morgan, déjà, comme toi, quand j'avais vu les premiers trailers de Red Dead Redemption 2, je me suis dit, mais c'est qui ce mec? Non, mais rentre chez toi.
C'est qui ce gland, quoi, sérieux?
Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, c'est un personnage, mais vraiment, très intéressant. Bah déjà, le doubleur d'Arthur Morgan, au fur et à mesure du temps, bah tu reconnais sa voix et tu t'attaches vraiment à son timbre si particulier qu'il a. Mais ça, c'est aussi un très grand point fort de Rockstar, et moi je pense que c'est quelque chose qui me fait beaucoup aimer leur jeu, c'est la qualité des dialogues. je trouve que les personnages, en fait, ils sont tellement bien écrits, ils ont chacun leur accent. Par exemple, Sean McGuire, c'est un Irlandais, mais tu l'entends directement à son accent, tu vois. La plupart des personnages sont reconnaissables juste à leur voix, même si c'est uniquement de la VO.
Mais d'une manière générale, ATH, le travail sur le son est juste, enfin, voilà, parce qu'on parle des voix, mais en fait, les voix, c'est vraiment le petit bout de la lorgnette, quoi. C'est-à-dire que Red Dead 2, c'est un jeu qui, à chaque instant, déploie des trésors en matière de son qui sont fabuleux, quoi. Que ce soit la musique, enfin, franchement, il y a des moments, je me dis, mais je sais pas, je joue depuis des heures et j'ai l'impression de ne jamais entendre la même musique. C'est quand même un truc de ouf, quoi. Je crois qu'il y a plus de 200 pistes dans le jeu. La bande son est fabuleuse, adaptative en fonction de tes actions. Elle rend hommage, enfin, à tous les films de western, etc. Enfin, ce jeu, de toute façon, c'est un hommage permanent western, hein, qu'on se le dise. Et en plus, elle sait se faire discrète aussi. C'est-à-dire qu'elle est pas tout le temps là à gueuler. Elle sait aussi fermer sa gueule pour laisser place, un autre type de son, à savoir celui des environnements qui est absolument fabuleux aussi. Il y a un souci du détail dans tous les petits sons que tu vas entendre à droite et à gauche. Enfin, quand tu te balades dans une forêt, c'est pas un endroit mort, quoi, en fait. T'as beau pas voir les animaux, tu les entends, par exemple, tu vois. Il se passe tout le temps des trucs d'un point de vue sonore, et les voix de personnages, finalement, c'est un peu l'aboutissement de ça. Le taf qu'il y a sur le jeu d'acteur, etc., et l'intégration de tout ça dans le jeu en général, c'est magique. Enfin, c'est magique.
Tu vois, en essayant de me rappeler des souvenirs de Red Dead Redemption 1er du nom, eh ben j'avais ça en mémoire, c'est-à-dire des plaines désertiques avec un son joué à l'harmonica qui m'accompagnait, ou bien juste le bruit du vent, le son de la faune aux alentours. Et ça, c'est un truc vraiment qui m'a marqué dans Red Dead 1. Et c'est vrai que enfin l'aspect sonore est juste magique, mais là j'ai un peu l'impression qu'on a bifurqué par rapport à Arthur Morgan, donc je vais recentrer le sujet là-dessus. Arthur Morgan, alors c'est un personnage qui est écrit différemment d'un John Marston, qui est un peu son mentor dans le jeu, même dans Red Dead Redemption 2.
Ah, plus que son mentor, moi tu vois, j'aurais tendance à dire qu'il est son grand frère.
Aniki, comme on dirait les Japonais.
Voilà,
c'est son Aniki. Arthur Morgan, c'est un personnage. En fait, à chaque fois, tu sens qu'il est rempli de doutes. C'est pas un personnage qui soit va faire le mal ou soit va faire le bien. Tu vois, au début, ce personnage, j'avais du mal à trouver intéressant parce que je pensais que ça allait être juste la brute qui allait être là pour déglinguer des gens. Alors que finalement, je sais pas pourquoi, mais le personnage, en fait, il est attachant. Mais alors là, je sais pas du tout dire.
Mais pas juste parce que c'est une brute, en fait, parce que c'est le monsieur à tout faire, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, quand il y a une merde dans la bande à Dutch, qui sait qui vient réparer la merde? C'est Bibi, tu vois, c'est Arthur Morgan. Parce qu'en fait, Arthur Morgan, c'est pas juste le grand frère de John Marston, c'est un des plus anciens membres de la bande à Dutch.
C'est même un des premiers avec Dutch et OCA.
Exactement. Donc, c'est vraiment un des membres du cercle fermé de Dutch. C'est le mec en qui on fait confiance, c'est le gars sûr, en fait, tu vois, de la bande.
Bien sûr, ouais.
Quand il y a une merde, tu cherches pas, tu vas voir Arthur Morgan. Et Arthur Morgan, il va résoudre ton problème. Bon, des fois, de manière pas très... pas très fine, hein. Mais Arthur Morgan, c'est le mec de la bande qui va résoudre les problèmes.
Oui.
Et du coup, il est juste idéal, ce perso, pour te faire découvrir toute la bande à Dutch et pour te montrer l'espèce de fraternité qui existe au sein de cette bande. Certes, c'est l'homme de main, le mec qui file un coup de main, etc. Mais finalement, pourquoi il file tous ces coups de main? Pourquoi il est tout le temps là? Mais parce que, putain, bordel, Arthur Morgan, ils aiment ces gens, en fait. Et c'est pour ça que, en fait, Arthur Morgan, c'est un personnage qui est tout le temps rempli de doutes, etc. Et qui en devient attachant, même si c'est une putain de raclure. Parce que, soyons clairs, hein, c'est un putain de salopard. Hein. En vrai, en vrai, c'est un putain de salopard. Mais, grâce à ses proches qui sont autour de lui, tu te rends compte que, ouais, c'est un salopard, mais c'est un salopard qui a un cœur, tu vois. Et qui a un certain nombre de principes, certes des principes qui sont un peu parfois tordus.
Ouais.
Et cette humanité, elle ressort justement parce que c'est le grand frère de la bande et que par ses interactions avec les autres personnages, tu vois que c'est pas juste un connard, c'est un mec qui parfois fait des saloperies, mais il les fait pas pour rien en fait, il les fait pour les siens.
Et ce qui je trouve aussi assez intelligent dans la manière dont c'est fait par rapport au jeu, c'est que Arthur Morgan, c'est pas un monolithe, il a plusieurs facettes, c'est-à-dire il peut être la brute, il peut être le mec drôle, lancer des choses sarcastiques, et il y a un moment, il y a un personnage qui dit quelque chose d'assez intéressant sur lui, c'est que Arthur Morgan fait semblant d'être bête, mais il est beaucoup plus intelligent qu'il ne laisse paraître. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on ressent bien tout au long du jeu. C'est pas juste le bras armé qui va faire les sales besognes, et c'est pour ça que je pense que Arthur Morgan, vraiment... il arrive à faire jeu égal avec John Marston sur d'autres aspects qui ne sont pas les mêmes. Il n'a pas les mêmes qualités, les mêmes défauts. Mais vraiment, voilà, moi je trouve que c'est un personnage assez intéressant et que c'est pas rare dans les années à venir qu'on reparle de lui, quoi.
Et puis, alors, il y a un autre aspect intéressant d'Arthur Morgan. Au-delà d'être le grand frère, c'est aussi un peu le gardien du temple. C'est-à-dire qu'en gros, la bande à Dutch, alors certes, c'est des voleurs, mais ils ont tendance quand même à se prendre un peu pour des Robins des Bois, quoi. Mmh. C'est-à-dire que Dutch, c'est un peu un gars qui aime bien bourrer le mou des gens.
Mais c'est un putain de manipulateur.
Mais c'est un putain de manipulateur quand même, qui au départ, en tout cas, semble avoir un certain nombre de principes.
Oui.
C'est-à-dire que il n'aime pas du tout être comparé aux autres hors-la-loi, notamment la bande adverse, les O'Driscoll.
C'est ça.
Parce que pour lui, les O'Driscoll, c'est des espèces de connards qui sont prêts à tout pour l'argent, etc. Alors que lui, non, Dutch quand même. Alors certes, il n'est pas tout blanc, mais il a des principes. Et c'est grâce à ces principes que la bande, elle tient ensemble. Et Arthur Morgan, il faut bien voir une chose, c'est quelqu'un qui a été élevé par Dutch. Et du coup, c'est peut-être l'un de ceux dans la bande qui croit le plus à cette espèce de bullshit, parce que je le dis très clairement, pour moi c'est du bullshit, comme quoi ce sont des hors-la-loi, certes, mais c'est des hors-la-loi quand même qui ont des principes. Et c'est ça qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que au fur et à mesure de l'aventure, on retrouve aussi un Arthur Morgan qui se retrouve non seulement face à ses propres contradictions, mais qui commence aussi à ouvrir les yeux sur ce qui, pour moi, l'un des plus grands personnages de jeux vidéo, c'est Dutch Van Der Linde, parce que autant dans le 1, franchement, c'est un personnage qui est anecdotique.
Ah, mais moi, je l'avais oublié.
Autant dans le 2, mais c'est un personnage, au départ, tu dis, putain, mais...
Moi, je pense que pour vraiment faire honneur à Dutch, qu'on en parle un peu dans la partie spoiler.
Mm-hmm.
Et qu'on termine vite fait sur le jeu en lui-même, les qualités qu'il a, avant de passer justement à la partie spoiler.
D'accord. Sachez juste que Dungeon Van Der Linde, franchement, pour moi, c'est un des personnages les mieux écrits du jeu vidéo. Et le pire, c'est que c'est pas le seul qui est bien écrit, quoi. C'est-à-dire que, vraiment, pour moi, l'un des éléments clés du jeu, c'est pas juste Arthur Morgan, c'est pas juste John Marston, c'est pas juste Dutch Van Der Linde, c'est la bande à Dutch, en fait. C'est-à-dire que c'est une bande qui a une vie en fait, et cette vie, tout au long du jeu, ils ont réussi à la retranscrire, et ça, moi je dis bravo, absolument tous les personnages de cette bande, moi j'ai trouvé, ils ont tous quelque chose à dire à leur niveau, et moi franchement, j'ai adoré suivre leur aventure, voilà.
Mais je voudrais quand même saluer toute l'équipe vraiment qui ont travaillé sur le jeu, pour vraiment insister sur les détails, c'est-à-dire qu'il y a des choses... tu n'y penses pas vraiment en y jouant, mais quand tu t'aperçois de comment ça a été fait, par exemple, un truc tout con, mais quand Arthur passe sous un arbre, sous une branche d'arbre, et ben il va baisser sa tête pour pas toucher la branche d'arbre. Les détails qui sont faits au tout début du jeu, c'était une claque visuelle. C'est-à-dire que tu marches dans la neige et il y a tes traces de pas qui restent, mais elles restent très longtemps. Mais ça ne s'arrête pas là, tu vois. C'est-à-dire que dans tout le jeu, en fait, ce même soin a été apporté à tous les détails. Vous pouvez le faire sur la boue, dans les plaines, à chaque fois vous allez voir que votre personnage il va avoir des choses qui vont le marquer, que ça soit physiquement par exemple avec des blessures de balles et du sang sur le corps, ou bien même juste de la poussière, de la boue qui va rester sur ses vêtements. Les mecs ils ont poussé le délire quasiment jusqu'au bout. Pour moi c'est le summum que j'ai pu voir, quoi. Au début je me demandais bien si ça, le jeu tournait sur PS4, parce que quand tu as joué à Assassin's Creed Odyssey avant sur PlayStation 4, moi je trouvais le jeu était vraiment très beau. Mais quand je compare avec aujourd'hui avec Red Dead, bah j'ai l'impression qu'il y a une génération qui les sépare.
Pour vous dire, moi je trouve Red Dead sur PS4 plus beau que Assassin's Creed Odyssey sur mon PC. Hein.
Voilà, enfin pour moi le mot de la fin c'est vraiment merci à tous les développeurs qui ont travaillé chez Rockstar, même ceux qui ne sont pas cités au générique, parce que vous avez quand même fait un bon.
Je ne le redirai jamais assez, encore une fois. Moi ce jeu je le trouve extraordinaire, mais par contre. Ce n'est pas normal que ces gens ne soient pas au générique, parce que non, franchement, oui, vu le taf qu'il y a eu, tu m'étonnes qu'il y en ait eu qui soient en burn-out. Hein.
Non, mais surtout voilà. Que, après avoir fait un jeu comme ça, qu'ils puissent au moins mettre Red Dead Redemption 2 sur leur CV, ça fait déjà pas
parce
mal.
Qu'ils méritent, quoi. Putain, quand tu vois le taf, tu dis, mais franchement, le plus petit employé dans cette boîte mérite d'avoir son nom en générique, quoi. Je suis désolé, putain.
Bah oui, c'est, mais, c'est pour ça que je voulais leur rendre à mon petit niveau un hommage. Et les remercier pour ce qu'ils ont fait, parce que c'est juste fou en fait le travail qu'ils ont réussi à faire. J'aurais préféré que le jeu soit fait dans les meilleures conditions, Mais je tenais vraiment à les remercier d'avoir pris le temps de nous proposer quelque chose comme ça. Pour moi, c'était important que le message passe par rapport à tous les mecs qui ont travaillé chez Rockstar, même ceux qu'on ne connaît pas, parce que le travail, il est juste incroyable. C'est tout.
Bon, allez, ça y est, c'est fini pour la critique sans spoiler. On va maintenant spoiler comme des porcs, cassez-vous. Par quoi on commence, ATH? Parce que là...
Moi, je pense que t'es chaud sur Dutch, là. Donc, on peut commencer par lui, peut-être.
Mais quel fils de pute, franchement. Non mais sérieux quoi, Dutch en fait si vous voulez c'est un peu, alors bon du coup on est entre gens qui ont joué au jeu, hein. Bon il y a peut-être des gens qui n'ont pas joué au jeu qui veulent juste savoir le fin mot de l'histoire quoi, mais je veux dire quand même on est d'accord, Dutch c'est un putain de gourou secte en vrai quoi.
Ah non mais c'est clairement un gourou manipulateur du début à la fin, au bout d'un moment Arthur Morgan se rend compte, à chaque fois il dit qu'est-ce qu'on va faire pour s'en sortir, et même enfin des fois quand tu pars en mission avec John Marston ou OCA, parce que c'est surtout eux en qui Arthur a confiance,
et c'est les deux qui ouvrent leur gueule d'ailleurs, hein, soyons clairs.
Bien sûr.
Bon même si John Marston tu vois qu'il est un peu en retrait, mais OCA très clairement c'est le mec qui n'arrête pas en permanence de remettre en question Dutch quoi.
Après c'est normal vu son statut qui il est là depuis le début avec Arthur dans la team, mais Dutch, alors déjà, le mec est ultra classe, hein, de manière vestimentaire. Tu vois, même au bout d'un moment, tu ressens toute la haine dans un petit dialogue. Dutch ne dit rien, mais quand il parle au mec de la mafia, la Bronte, Bronte, il dit ouais, t'es qu'un paysan, allez va-t'en. Là, Dutch, tu lui dis ok, on va s'en aller. Mais après, quand tu vois la vengeance qu'il lui met dans la gueule, il a eu tellement, en fait, la haine par rapport à juste à ce petit détail que ça l'a touché.
Alors que c'est le mec qui a appris à ses troupes, ouais non non la vengeance c'est pas bien.
Et même à ce moment-là Arthur il lui dit la vengeance pour la vengeance ça ne sert à rien, on peut pas se permettre une vengeance maintenant. Après tu vois Dutch qui réplique totalement autre chose, qui lui dit non mais là c'est nécessaire et tout, t'inquiète fais-moi confiance.
Je sais pas si t'as remarqué le vocabulaire TH, c'est pas faire enfin s'il y a deux moments il dit fais-moi confiance, mais surtout moi ce qui m'a marqué c'est qu'il dit il faut avoir la foi quoi, tu vois.
Oui c'est ça.
Le mec utilise le vocabulaire du religieux quand il parle de lui-même, tu vois. C'est pour ça que moi j'ai dit c'est un putain de gourou de secte, parce que le mec ils a tous embobiné, enfin les scènes autour des feux de camp, mais c'est fabuleux quoi, les moments où Dutch commence à faire ses speeches autour des feux de camp pour raviver les troupes, etc. C'est génial. Et ce que je trouve d'autant plus génial, tu sais, c'est que ces scènes, tu peux totalement passer à côté.
Ouais.
Mais tu vois l'évolution au fur et à mesure du jeu, quoi. C'est-à-dire qu'au début, tout le monde écoute Dutch, tu vois. Et je sais pas si t'as remarqué, à la fin, il parle tout seul, quoi, le mec. Plus personne ne croit en lui à la fin, quoi. Et tous les gens commencent à se barrer un par un. Et ça, j'ai trouvé ça, mais génial, quoi. Enfin, la progression dans l'histoire est juste fabuleuse.
Et le moment, en fait, qui marque le plus, je pense que c'est à ce moment-là que tous les joueurs, même ceux qui n'avaient pas compris, parce que pendant le jeu, en fait, ils te laissent plein de détails. Mais comme tu as dit, c'est des détails qu'on peut passer à côté. Écoutez comment Dutch parle avec certains PNJ du camp, à certains moments de l'histoire. Au début, il va leur parler de manière totalement voilà, amicale et tout. Et après, il va les prendre un peu de haut. Et regardez même ce que lit Dutch. Il lit un livre qui s'appelle L'Eden américain. Mais quand vous lisez ça, tu comprends vraiment en fait d'où il tire son inspiration, comment en fait il arrive à galvaniser un peu son équipe. Et le moment en fait le plus marquant pour moi, je pense que c'est pour tout le monde, c'est quand on arrive sur la fameuse île de Guarma. Tu vois Dutch au début qui balance un lingot d'or comme ça pour une vieille dame, juste pour qu'il leur montre un chemin. Bon déjà tu dis un lingot d'or, c'est un petit peu abusé. Là tu sens qu'il y a Anguille sous roche. Et là le mec. Mais il la tue, mais sans pitié.
C'est là que, en fait, le joueur, il se réveille. Alors, pour peu qu'il soit pas réveillé avant, parce que quand même, moi, je t'avoue que ça faisait un moment que j'étais réveillé, hein, concernant Dutch. Enfin, déjà, dès qu'il a commencé à utiliser le vocabulaire du religieux, pour moi, j'ai dit, oh putain, toi, tu pues du cul, toi.
Ouais, mais tu l'avais jamais vu en action devant toi physiquement, parce que tu voyais que Dutch, il perdait un petit peu la boule, quoi. Il rentrait vraiment dans son délire de gourou. Parce que même au tout début du jeu, il y a un événement qui se passe que nous, on joue après cet événement. C'est le fameux casse qu'il y a eu à Blackwater. Et à ce casse-là, John Marston, il a vu que Dutch, il a tué une femme de sang-froid et même, il te décrive ça, ses yeux sortaient de ses orbites, mais il l'a fait de manière totalement un coup de folie, quoi, qui lui est arrivé. Et là, quand en fait, cette scène-là, elle arrive devant toi, mais plus tard dans le jeu...
Et c'est là que tu comprends que... Mais non, en fait, c'est lui, quoi. Enfin, il a toujours été comme ça.
Mais oui,
c'est juste que c'était un putain de bon acteur, tu vois. Parce qu'au début du jeu, il fait quand même un peu père de famille, quoi. Le début, tu sais, où il commence... à énoncer les noms de sa bande, etc., de manière très théâtrale et tout. Enfin, tu dis, ouais, c'est le mec, voilà, il aime ses hommes. Ouais, c'est pas comme ces putains d'O'Driscoll, là, où ils sont prêts à engager n'importe qui. Et d'ailleurs, c'est très intéressant qu'ils aient mis les O'Driscoll au début. Mmh. Parce que justement, ils sont là pour marquer la différence entre la bande à Dutch et les autres. Dutch, il veut pas n'importe quel Gugus. Lui, ce qu'il veut, c'est des gens qui l'admirent, qui l'adorent, en fait.
C'est ça. Et même, ce qui est si intéressant par rapport à l'histoire du premier Red Dead, c'est que John Marston, avec qui on fait Red Dead Redemption 1, qui se passe après, bah John Marston aussi a été élevé par Dutch. Et ça, c'est quelque chose que je pense que beaucoup de joueurs sont passés à côté. C'est Dutch qui a appris à lire à Arthur et à John, qui les a éduqués. Et donc, c'est des fois, tu te dis, non mais là, attends, Dutch, il fait un peu n'importe quoi, moi je lui aurais déjà mis une balle dans la tête. Mais en fait, si tu comprends vraiment que les mecs, ils le voient comme un père, tu comprends mieux pourquoi des fois, le joueur... Enfin, Arthur a du mal à agir, alors que lui et Océa, ils sont conscients de la chose. Ils voient que la merde, elle va arriver. C'est comme si, tu vois, ton père, il t'a élevé. Même si ton père, il fait des conneries, tu vas essayer de le raisonner, tu vas tout faire pour essayer de t'en sortir. Tu vas pas lui mettre une balle.
Surtout si ton père t'a donné de l'amour, quoi. C'est ça, le truc. Tu sens vraiment de l'affection qu'Arthur a pour Dutch. Enfin, tu le sens tout au long du jeu. Et d'ailleurs, il en abuse, hein, parce que tu le vois, à chaque fois que ça commence à chauffer, il appelle Son.
Ouais, c'est ça.
Et bah moi aussi, un autre passage qui m'a marqué, c'est vraiment le moment où Dutch, il fout Arthur Morgan de côté, quoi. Arthur, c'est plus le mec sûr, il va chercher Mika. Mika, qui est le connard de service, qui vraiment... Alors pour le coup, s'il y avait une pourriture dans la bande, ce serait vraiment lui, tu vois.
Ouais.
Et pour le coup, c'est vraiment la piste rapportée, Mika, quoi. C'est le dernier arrivé, on sait pas trop ce qu'il fout là, c'est lui qui les a foutus dans la merde, etc. Enfin, Arthur Morgan n'a pas de mots pour qualifier Mika, quoi. Enfin, il pense qu'il n'a rien à faire là, en fait. Clairement, tout au long du jeu, Arthur dit « Mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi ?» Et à la fin, il comprend, quoi, Arthur. Mika, c'est la vraie nature de Dutch. C'est pour ça qu'ils s'entendent bien. Et ouais, le moment où Dutch choisit Mika, en fait, c'est le moment où il assume, au grand jour, que ben tous ses beaux principes, etc., c'est du pur bullshit. C'est le moment où tiens, Arthur va te faire foutre.
Exactement, et puis même, Mika, c'est un pervers. Dans la manière de tuer les gens, d'exécuter. Au tout début du jeu, tu le fais évader d'une prison. Et quand il s'évade de la prison, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va se venger, il va buter un mec et sa femme chez eux directement, quoi. Et toi, t'es derrière la porte, tu vois pas la scène, mais t'entends ce qui se passe. Et je trouve que le fait de pas montrer la scène directement, mais juste d'entendre les coups de feu tirés, les cris de la femme en pleurs et tout, mais c'est encore plus terrifiant que de voir la scène devant toi. Dès que je l'ai libéré, j'ai fait, mais c'est qui ce psychopathe, quoi? J'ai dit, au début, tu vois tous les mecs de la bande, ils sont quasiment cool. Mais là, quand tu vois lui, mais je suis désolé, tu vois, pour moi, Bill Williamson, qui est un des grands protagonistes du premier, mais à côté de lui, c'est un bisounours. Après, je voudrais revenir aussi sur John Marston. En fait, John Marston, dans le premier Red Dead, il me semble pas du tout que Arthur Morgan soit évoqué.
C'est un peu l'angle mort dans la narration, quoi.
Bah moi, je trouve que c'est un peu mal fait parce que, vu l'importance qu'a Arthur Morgan à la fin de l'histoire avec John, c'est quand même lui qui donne la bague avec laquelle John va demander sa femme en mariage. Bah, c'est quand même bizarre que le mec, il soit pas mentionné. T'as l'impression, en fait, qu'il est apparu comme ça, nulle part, hop, on l'a mis, histoire de faire jouer un autre personnage. Et c'est d'autant plus dommage que le personnage en question, là, je pense qu'on va vraiment entrer dans le détail du très gros spoil concernant Arthur. C'est quand même rare de voir un personnage, et surtout un héros de jeu vidéo, mourir. Quoi.
Non, mais mourir, ça, je veux dire, on s'y attendait.
Oui,
en ayant joué au 1, en sachant qu'on l'évoque pas une seule fois, et surtout que le fait que John Marston, il est mort dans le 1, donc bon, a priori, voilà. Mais moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est que finalement, ce qui le tue, c'est pas le fait de se prendre des balles comme John Marston, c'est la maladie, quoi, en fait. Et c'est surtout... les conséquences de ses actes, parce
c'est
que
ça.
Cette maladie-là, il l'a chopée parce qu'il a été un connard.
Eh oui, parce qu'au tout début du jeu, on te demande d'aller récupérer une dette pour Strauss, qui est un peu le banquier du groupe. Tu vas le tabasser le mec comme un connard devant sa femme et son gosse. Et là, le mec, il va juste te cracher à la gueule. Du coup, Arthur va choper la tuberculose. Et toi, tu continues ton aventure comme si de rien n'était. T'as récupéré l'argent, t'es content. Plus tard, t'apprends dans le jeu que le mec, il est mort. Que sa femme, elle se prostitue, parce que tu la rencontres plus tard dans le jeu, tu la vois carrément qui fait le tapin sur les rues de Saint-Denis, son fils qui est obligé de travailler à la mine, qui limite va attraper une maladie, et là tu te dis, putain, en fait c'est ça les conséquences de mes choix au début. En fait j'ai agi comme un connard, Même si le jeu te laisse pas le choix. Hein.
Ouais, parce que les conséquences de mes choix, moi, si on m'avait laissé le choix de pas le tabasser, le mec, je l'aurais pas tabassé, hein, je te le dis. Hein,
ouais, mais non, mais voilà, voilà. Non, mais voilà, les choix imposés par le scénario, mais c'est.
C'est les conséquences de la soi-disante vie de bandit avec de l'honneur mon cul, quoi. Il est où l'honneur là? T'as vu le résultat de tes actes? Pour moi, c'est vraiment ça qui rend d'autant plus marquant ce qui arrive, c'est que. Au début, t'as un Arthur Morgan qui croit encore un peu à ce bullshit comme quoi c'est pas une bande comme les autres, etc. Puis à la fin, bon déjà, il a perdu toutes ses illusions à cause de Dutch, mais en plus, il se retrouve face aux conséquences de ses actes, et il se rend compte que, pff, ah ouais, c'est chaud quand même. Ouais, je suis vraiment une pourriture en fait. Et du coup, vient le moment où on te laisse le choix de faire la rédemption de ce personnage, via des missions secondaires que tu n'es pas obligé de faire. Et ça, je trouve ça intéressant, par contre.
Ouais, ça, bah, c'est très intéressant parce que ça approfondit un peu plus le personnage qui est Arthur Morgan. En fait, il y a plein de PNJ pendant le jeu qui vont parler des PNJ même secondaires. Ils vont dire, ouais, il faut faire attention parce qu'au bout d'un moment, ça va être trop tard. Il va être trop tard. Donc, même si vous avez pas beaucoup de temps, essayez de faire le plus de bien que vous pouvez faire dans le temps qui vous est imparti. Et après, je trouve qu'il y a une discussion très intéressante avec Charles. C'est que Charles lui dit, toi, au moins, t'as la chance, tu sais quand tu vas mourir. Donc du coup, profite de ce temps-là pour faire le bien.
Ouais, parce que les autres, tu vois, tous tes potes, ils sont fait buter avant. On l'a pas vraiment laissé le temps de se racheter, quoi, entre guillemets.
C'est ça.
Toi, par contre, t'as l'occasion de te racheter, donc fais les choses bien. Quoi.
Et je trouve qu'il y a un truc aussi qui est vachement cool, c'est que dans le jeu, t'as une mission secondaire qui te propose d'aller faire un cambriolage. Tu peux pas braquer cette maison-là avant le dernier chapitre. Donc du coup, tu vas là-bas, et là, tu vois, en fait, la femme, elle a enterré son mari. Et du coup, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu vas cambrioler comme un salopard? Ou bien tu vas aider la femme à s'en sortir entre guillemets quoi. J'aime beaucoup moi en fait les jeux comme ça où on essaie d'aller plus loin que d'être juste un jeu ou une histoire racontée comme ça de manière très popcorn. Ce qui est intéressant c'est qu'ils ont vraiment pris le temps d'installer le personnage, de détailler ses faits et gestes, de raconter sa vie et que tu vois que ça a pas été rushé. Même la fin, des fois je me disais ouais c'est, la fin elle est longue, mais en arrivant au pont culminant, je comprends vraiment pourquoi ils ont insisté là-dessus en fait. Parce que ça rend la disparition du personnage encore plus forte que si ça aurait été fait en 2-3 missions et puis on serait passé à autre chose quoi.
Et pour terminer cette critique, j'ai beaucoup aimé l'épilogue qui fait la transition avec Red Dead 1 parce que finalement on voit les conséquences de la rédemption d'Arthur et la conséquence principale de la rédemption d'Arthur c'est John Marston en fait.
Bah oui, c'est ça.
Et c'est pour ça que d'un côté ça nous choque que il soit pas évoqué dans Red Dead 1. Arthur, il a tellement d'importance dans la vie de John. C'est vraiment le grand frère qui lui a sauvé la vie. Enfin, mais dans tous les sens du terme, quoi.
Ouais. Et puis, moi, tu vois, c'est un jeu... c'est rare que le jeu, ils arrivent à me toucher. Mais déjà, quand tu reviens de l'île, tu montes sur ton cheval, et là, il y a juste une musique qui est chantée, et qui te montre le paysage, et toi, tu peux regarder le paysage à loisir. Mais tu sais, il se passe rien, il y a juste une musique qui est en fond. C'est avant que tu comprends que ton personnage va mourir, mais enfin, tu le sentais déjà qu'il allait pas bien et tout ça. Et moi, je trouve que, voilà, ça, c'est des passages dans le jeu vidéo où, entre guillemets, se passe pas grand chose. Mais juste par la force évocatrice, rien que par le biais d'une image, d'un son, juste à prendre une claque comme ça, et c'est un jeu qui m'a touché, ouais. C'est rare que des jeux me touchent alors que je m'y attendais pas. En tout cas au tout début là je savais que Arthur Morgan dès le début c'était le contrat en ayant joué à Red Dead 1, je savais très bien qu'il allait disparaître dans le 2, mais la façon dont ça a été amené, je m'y attendais pas. Moi enfin vraiment ma théorie avant la fin du jeu c'était Arthur Morgan se barre avec l'argent qu'ils ont planqué à Blackwater, il trouve un nouveau nom et il demande à John de l'oublier comme ça il fait comme s'il n'a jamais existé, tu vois, pour pas qu'on le retrouve dans le premier, parce que je me disais tu vois c'est pas logique qu'on en parle pas dans le premier, soit il allait faire ça. Soit il allait mourir sans que John s'en aperçoive ou je sais pas quoi, mais il devait se passer un truc. Et là, le fait que ça soit la maladie qui soit arrivée par rapport à ce qu'il a fait et qu'il a agi comme un connard, c'est une belle manière de dire, ouais, en gros, fais attention parce que tes actes aujourd'hui peuvent avoir des conséquences sur long terme. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont très bien réussi. Ils maîtrisent tellement bien l'écriture des personnages. Je parle pas de l'écriture du scénario, mais l'écriture des personnages avec les dialogues. Je trouve qu'ils sont vraiment excellents là-dedans. Et ça a été très bien représenté, en fait, dans ce Red Dead, quoi.
Voilà. Bon, ATH, je te propose qu'on s'arrête là et qu'on aille se coucher. Ça me paraît pas mal.
Ouais, parce que là, j'ai un peu du mal à parler en plus. J'ai du mal à te dire des mots en français simple. Donc, je pense que... en tout cas, la partie spoiler, j'espère que... elle vous aura fait plaisir aussi, également. N'hésitez pas à vous donner vous aussi votre avis sur ce que vous avez pu ressentir en jouant au jeu, si vous êtes d'accord ou pas du tout avec nous aussi. Ça se peut que vous vous direz ouais putain mais c'est de la merde, c'est c'était digne d'un film de boule le scénario de Red Dead. Enfin voilà, nous on est prêt à tous vous lire par rapport à ça. Et puis surtout, je pense que c'était intéressant qu'on le fasse à deux ce podcast et qu'on parle que de Red Dead parce que tu vois, on mine de rien.
Alors moi, on peut spoiler comme des porcs sans sans se soucier du fait que nos camarades qui n'ont pas forcément joué au jeu soient là et du coup soient spoilés aussi. Surtout qu'à mon avis, il y en a un certain nombre qui voudraient quand même le faire. Donc voilà. Bon, allez, bonne nuit tout le monde. Ciao.
Merci pour l'écoute et puis à la prochaine.